Madame Denoncourt, on est très heureux de vous accueillir à CIM en studio aujourd'hui parce que on est très impressionnés par ce que fait le centre de simulation. C'est la technologie, donc évidemment, ça attire beaucoup l'attention. Là, on est encore dans cette campagne majeure. On en parle depuis les derniers mois. Mais on veut quand même rappeler aux gens ce que vous faites au centre et l'importance de cette technologie-là. On sait que les soins infirmiers, c'est encore hyper populaire. Qu'est-ce que ça fait, ce centre-là?
Mais le centre de simulation, c'est vraiment une nouvelle stratégie pédagogique. Fait que c'est une nouvelle stratégie qu'on a voulu implanter dans notre collège. Parce qu'au collège, on est un gros collège, hein, vous savez, on reçoit 700 étudiants, on a deux campus. Cette stratégie-là permet de développer des compétences, des aptitudes, des habiletés au niveau des étudiants pour leur permettre de vivre des stages plus favorisants par la suite. Elle leur permet aussi d'avoir des situations beaucoup plus complexes qu'elles pourraient vivre en stage. Parce que, évidemment, ils vont vivre de la théorie. Ils vont vivre des laboratoires, ils vont vivre des simulations cliniques dans un contexte qui est vraiment, il faut le rappeler, le centre de simulation, c'est vraiment un contexte qui est réel. On a vraiment une chambre d'hôpital, on a vraiment de l'équipement fonctionnel, que ce soit de l'oxygène, l'air comprimé, tout ça, l'équipement est tout fonctionnel. Et le centre de simulation permet aux étudiants de travailler en équipe, ensemble, en collaboration, puis de réussir à résoudre des problématiques chez les clients au niveau de leur jugement clinique, leur pensée critique, des problématiques des fois qu'ils ne pourraient pas vivre en stage parce qu'ils n'ont pas eu les patients pendant les stages ciblés à ce moment-là. Donc, ils vont pouvoir les vivre et pouvoir être plus prêts quand ils vont arriver en stage et évidemment quand ils vont arriver dans leur pratique réelle. Donc, on peut aller beaucoup plus complexe dans nos problématiques. Sinon, en stage, souvent, quand les situations sont trop complexes, à ce moment-là, l'étudiant se retrouve en situation d'observation. Donc, c'est ce qui est différent en simulation. Ils le vivent, ils le font, sont de vraies infirmières. Puis quand ils arrivent dans la réalité, bien évidemment, ils sont plus prêtes. C'est ça qu'on veut.
Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a des scénarios. Là. Il y a vraiment des scénarios établis avec ces simulateurs qui sont en fait des mannequins, si on veut.
Oui, bien c'est ça. On a des simulateurs, on a plusieurs simulateurs, on a 4 simulateurs hommes, on a 2 simulateurs femmes. Les simulateurs femmes, c'est des simulateurs qui peuvent aussi être des femmes avec abdomen non gravide, mais aussi avec abdomen gravide qui peuvent faire des accouchements. Puis on a aussi 2 nouveaux-nés où on peut faire beaucoup de simulations cliniques avec les nouveaux-nés aussi. Donc, on est vraiment dans le contexte réel.
Donc, vraiment, et des scénarios qui peuvent aller, quoi, vous programmez, vous, en tant qu'enseignante, OK, là, on va vivre, puis là, les étudiants ne le savent pas, là, ce qui va arriver, finalement, comme dans un vrai hôpital.
Bien, c'est ça. C'est comme dans un vrai hôpital. C'est vraiment des simulations cliniques. On a un programme de simulation de la session 1 à la session 6. Donc, on est vraiment en situation clinique. On a prévu des scénarios qui vont vivre à chacune des sessions. Pendant les 3 années, ils vont vivre autour de 33 scénarios. Donc, ces scénarios-là, ils devront se préparer avant d'arriver en simulation. Ils vont avoir une partie qui va être un briefage. Ensuite, ils vont vivre la simulation. Puis ensuite, il va y avoir un débriefage, ils vont recevoir la rétroaction d'eux et de leur père et vont pouvoir aussi se voir. Donc, c'est vraiment une stratégie pédagogique qu'il faut suivre vraiment la méthode pour que ce soit efficace. Puis évidemment, quand on se revoit après, c'est là qu'on conclut que « Ah, j'ai oublié telle chose, il me manquait telle chose. » Donc, ça, c'est vraiment important. Fait que le professeur se retrouve être un facilitateur à ce moment-là. Et quand il est facilitateur, c'est lui qui dirige les entrevues, mais c'est vraiment à l'élève de trouver les solutions, puis de travailler le jugement clinique, puis de vraiment trouver c'est quoi la solution. Et quand ils repartent de là, ils savent quoi faire quand ça va leur arriver pour la première fois à ce moment-là.
Et c'est du court terme, c'est-à-dire qu'ils se voient tout de suite après, donc c'est frais dans la
oui.
mémoire aussi?
Exactement. Tout se passe dans la même journée. Tous les scénarios, quand ils vivent une journée de simulation, il se passe 3 scénarios et chaque séquence avec les stratégies, c'est vraiment 3 heures par scénario. Donc, ils vivent une journée complète, 9 heures en simulation. Puis, évidemment, après chaque simulation de leur père et eux, parce qu'ils sont en groupe de 6, à ce moment-là, ils vont vraiment arriver à revoir tous les scénarios puis à comprendre, évidemment, tout de suite après la... Et c'est ça la stratégie, dans le fond, de pouvoir se voir, de pouvoir voir les pairs, d'apprendre des autres, mm-hmm. mais aussi de pouvoir réagir après.
Et jusqu'où ils vont, ces mannequins-là, ces simulateurs-là? Jusqu'où ils vont? Est-ce qu'ils saignent? Est-ce que, tu sais, jusqu'où ça va?
Oui, bien évidemment, les simulateurs, on peut faire de tout. Ils parlent, ils ont des bruits pulmonaires, évidemment, ils ont des bruits abdominaux. Oui, ils peuvent saigner. C'est nous qui allons tout programmer sur l'ordinateur, mais évidemment, on est assisté d'une technicienne aussi, parce que pendant la simulation, la technicienne peut faire la voix du simulateur et en même temps, elle peut programmer directement des changements dépendamment de ce que l'étudiant va faire.
Donc, c'est assez impressionnant, vous, dans votre pratique. Quand vous étiez aux études, il n'y avait pas ça, j'imagine?
Bien, les simulateurs existent depuis un certain temps, okay. mais dans en soins infirmiers, c'est vraiment nouveau qu'on utilise les simulateurs dans les collèges là, au Québec. Puis évidemment, les simulateurs, ils existaient dans l'aviation, ils existent dans d'autres choses. En médecine, il existe depuis un certain temps aussi aux États-Unis ou au Québec aussi. Mais dans nos collèges actuellement, là, les implantations se sont faites au début des années. Nous, c'est depuis 2014 qu'on a fait l'implantation. Certains collèges ont fait de l'implantation un petit peu avant nous, mais on est les premiers là, dans les collèges à avoir fait l'implantation des simulateurs. Puis là, bien, tous les collèges s'en vont dans cette visée.
C'est ça, emboîter le pas. Puis j'imagine, vous parliez tantôt, Mme Denoncourt, des stages. J'imagine que dans les Haute-Laurentide, par exemple, il n'y a pas la même situation qui pourrait se produire si on est en stage à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Donc, il y a ça aussi qui fait qu'on vit toutes sortes de situations qu'on n'est peut-être pas appelé à vivre en stage.
Dans le fond, en stage, on est à la merci des patients qu'on a actuellement. Fait que les étudiants vont vivre des situations différentes s'ils sont à Sainte-Agathe, s'ils sont à Argenteuil, s'ils sont à Saint-Eustache. Ils vont aussi à Saint-Jérôme, ils vont aussi à Le Gardeur. Donc, ils vont vivre des situations différentes d'un endroit à l'autre. Puis ce sont toutes des situations très pertinentes, mais on ne peut pas s'assurer qu'ils vont vivre tout le monde dans leur programme, toutes les mêmes situations. Alors qu'avec la simulation clinique, on s'assure que les étudiants vont vraiment vivre un minimum de scénarios qu'on s'assure que c'est incontournable dans leur programme qu'ils aient vécu, puis qu'ils ont pu aussi interagir comme infirmières. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. Puis en plus, comme elles se voient, elles peuvent aussi avoir une autocritique, pouvoir savoir, exemple non-verbal, tout ça. Elles peuvent aussi aller jusqu'à plus loin dans la réflexion pour aller plus loin au niveau de leurs connaissances et leurs habiletés et leurs compétences à ce moment-là.
Il y a l'aspect aussi perfectionnement. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup des étudiants, mais il y a aussi des médecins et des infirmières qui viennent se former, donc aller plus loin. Est-ce qu'on est rendu là aussi? Est-ce que les simulateurs peuvent aller un grade encore plus élevé au niveau de la difficulté, par exemple, des situations?
Les scénarios cliniques, c'est nous qui les montons. Donc, évidemment, les simulateurs, évidemment, c'est nous qui décidons jusqu'où ils peuvent aller. Et effectivement, on a des simulateurs très performants au Cégep de Saint-Jérôme. Donc, on peut aller très loin dans la formation. Autant, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, notre campagne majeure, parce que dans le fond, notre campagne majeure, on veut cibler dans notre première phase de développement qui va se terminer en 2019. On veut que nos scénarios, que les étudiants des programmes au complet puissent avoir, comme je vous dites, 33 scénarios. Ensuite, on veut vraiment, comme on disait dans notre campagne majeure, on veut vraiment aller aussi au niveau de la communauté. Donc, on sait qu'on peut former des pompiers, on peut former des médecins, des inhalothérapeutes, on peut aller vraiment plus loin dans la formation avec la formation continue. Fait que c'est ça aussi la phase 2 qu'on veut s'en aller à partir de 2020. On va être rendu dans cette phase-là d'aller au niveau de la communauté.
Donc, ça veut dire que les gens pourraient venir se former directement au centre, donc au Cégep, par exemple.
Oui, actuellement.
Donc, ce n'est pas le cas présentement, de ce que je comprends, là.
Présentement, on a notre client. On est dans notre première phase, fait qu'on s'est concentré vraiment sur nos élèves, donc parce qu'on veut qu'ils soient très performants quand ils vont arriver dans le milieu du travail. Donc, notre première phase, comme je disais, jusqu'à la fin de l'automne 2019, c'est vraiment de former tous nos étudiants. Puis après ça, pour qu'il y ait un certain pourcentage de scénarios, tout ça. Puis après ça, dans notre phase après, notre phase 2 qu'on appelle, là, à ce moment-là, on va former, évidemment, on va travailler des scénarios pour former à l'extérieur. Ce qu'on ne pouvait pas faire au départ, parce que vous savez, dans l'aménagement des locaux, on a eu deux phases. On a eu la phase 1 où ce qu'on a aménagé à Mont-Laurier une grande chambre avec un simulateur. Puis ensuite, dans la phase 2, c'est là qu'on a ajouté des simulateurs puis un autre lit dans la même chambre. À Saint-Jérôme, on avait seulement deux chambres au départ dans notre phase 1. Puis après ça, on a ajouté trois autres chambres, c'est-à-dire. Donc là, on se retrouve avec cinq chambres, puis là, on peut accueillir. Donc, c'est sûr que l'aménagement du pavillon K, du centre de simulation, s'est terminé à l'hiver 2018. Donc, on n'aurait pas pu accueillir à ce moment-là de la clientèle extérieure parce qu'on a déjà, il faut savoir, 700 étudiants dans nos deux campus. Donc, on avait besoin vraiment de plus d'espace pour pouvoir accueillir à l'extérieur.
Et là, est-ce que la famille des simulateurs pourrait s'agrandir, c'est-à-dire racheter d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres simulateurs bébés? C'est quoi le projet actuellement?
Bien évidemment, c'est pour ça notre campagne majeure, parce qu'on veut travailler à avoir plus d'équipements possibles. Parce que, évidemment, là, on a un homme. On a plusieurs hommes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'homme, on a la femme qui accouche, on a le nouveau-né. Mais effectivement, on peut aller plus loin. On pourrait avoir un enfant autour de 8 à 10 ans. On pourrait avoir un simulateur plus spécialisé en traumatologie, ou on pourrait aussi avoir un simulateur plus spécialisé en préhospitalier ou tout ça. Mais actuellement, avec les simulateurs qu'on a, on répond à beaucoup de problématiques. On peut quand même aller loin à ce niveau-là, mais il manque des équipements aussi pour, si on veut spécialiser, évidemment, plus. On peut
parce qu'ici, le cégep de Saint-Jérôme a une place au Québec. Je pense que c'est le troisième collège en importance au niveau du nombre d'étudiants en soins infirmiers. Donc,
exact.
Vraiment, comme on dit, sky is the limit. Là, on pourrait aller très loin si les moyens financiers suivent, évidemment.
Bien, évidemment. C'est sûr que c'est des équipements qui sont dispendieux. Donc, ça va avec les moyens financiers et les ressources humaines aussi. Donc, parce que faire vivre un centre de simulation, ça prend des simulateurs, évidemment. Ça prend des chambres, de l'équipement fonctionnel. Mais ça prend aussi des êtres humains, techniciennes, enseignantes, pour faire vivre le centre de simulation. Fait que c'est sûr que la campagne majeure, qui est notre objectif de 1,6 million, c'est vraiment pour aller chercher le plus d'équipements possible pour qu'on puisse répondre autant à nos étudiants qu'à la communauté, parce que c'est ça le but, c'est qu'on puisse aller dans la communauté. Donc, c'est pour ça que là, actuellement, on travaille fort. Comme vous le savez, on a une partie de hockey prochainement où est-ce qu'on vend des billets. Donc, je vous invite à aller sur le site du CSTJ, puis à faire notre code promotionnel pour vraiment aller chercher à ce moment-là un billet d'hockey pour aller voir la Rocket de Laval, puis aller voir notre porte-parole qui est un étudiant émérite dans notre collège avec une cotère de plus de 34, qui est vraiment un étudiant exceptionnel au niveau sport-études, comme vous le savez, puis en plus qui a eu des problématiques au niveau de la santé, puis qu'il s'attache vraiment à la vision du centre de simulation de la santé, parce qu'évidemment, il poursuit ses études au niveau pour pouvoir s'en aller dans le milieu de la santé, si advenant que le hockey ne fonctionnerait pas.
Ou quand sa carrière va s'arrêter. C'est quand même rendu assez incroyable, Mme Denoncourt, de réinventer un peu les campagnes de financement pour amener les gens finalement à donner. On se réinvente. Est-ce que vous pensiez un jour, j'allais dire, voir autant de la communauté se mobiliser d'une certaine façon pour le centre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Mais comment ça, c'est pas les gouvernements qui investissent là-dedans? » Il y a un donnant-donnant aussi avec la communauté. On les invite à investir pour eux-mêmes d'une certaine façon.
Oui, actuellement, on donne et on reçoit. C'est vraiment ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis je pense que la communauté, sont vraiment, au niveau de la formation, c'est vraiment des visées importantes pour la communauté. Puis au niveau de la santé aussi, c'est deux créneaux qui sont très importants. Puis évidemment, si on veut être bien soigné, il faut bien former aussi. On formait de façon efficace avant, c'est pas ça. C'est juste que là, on a des stratégies pédagogiques qui font en sorte qu'on forme encore plus des standards plus hauts, parce qu'on peut aller plus loin avec nos étudiants. Parce que, comme je disais tantôt, en stage, on a aussi des limites, parce qu'il y a un vrai patient qui est devant nous. Donc, si la situation est vraiment critique, à ce moment-là, on préfère mettre l'étudiant en observation que lui permettre de faire une erreur au niveau du patient. Tandis qu'en simulation, l'étudiant le sait qu'il a le droit à l'erreur. Il signe des contrats de confidentialité qui font en sorte qu'ils sont à l'aise quand ils vont en centre de simulation, parce qu'ils savent que tout ce qui se passe ici reste ici. C'est une loi d'omerta. Donc, on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'essai. Puis c'est là qu'on se rend compte, oups, je me suis trompée de dose. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Ah, oh, je me suis trompée à tel endroit. Je ne me suis pas aperçue que j'avais mis l'air comprimé au lieu de l'oxygène ou j'avais fait telle intervention au lieu de telle autre. Là, c'est là qu'ils se rendent compte. Ou si le patient dit, oh mon Dieu, tu n'as pas l'air d'être sûr. Ou t'as pas l'air sûr de ce que tu fais. Là, c'est quand il se revoit après ça, qu'il voit que, oh, mon nom verbal, il voulait dire que j'avais pas l'air d'être ça. Il faut que je fasse attention à ça. Donc, c'est plein de petites choses qui se rappellent parce qu'ils l'ont vécu. Il n'y a rien de mieux que faire pour apprendre.
Oui. Et quelles sont les réactions, justement, des étudiants, étudiantes, quand ils vivent ça pour la première fois?
C'est sûr que les réactions, premièrement, ils ont un petit stress hein, quand ils vont en centre de simulation parce que, veut, veut pas, ils se ramassent dans une chambre, oui, avec une situation clinique, oui, ils ont préparé, entre guillemets, parce qu'ils savent, exemple, ils sont en troisième session, ils savent qu'ils ont appris ils ont des connaissances théoriques sur la cardiologie, par exemple. Donc, ils savent que il va y avoir une situation sur la cardiologie, il va y avoir une situation sur une opération ou telle chose. Bon, ils ont une idée de ce qui va se passer. Ils étudient en fonction de bien se préparer. Par contre, quand ils arrivent en simulation, ils restent que là, ils le vivent, puis ils ne savent pas non plus tout ce qui va arriver pendant la simulation. Donc, ils doivent, là, sans livre, parce qu'évidemment, ils ont le dossier médical, ils peuvent téléphoner le médecin, il va lui répondre, ils peuvent téléphoner la pharmacienne, ils ont accès à tout ça. Par contre, là, ils sont directs avec le patient et le patient va leur parler. Il va leur poser des questions, il va leur demander de l'information. Donc là, à ce moment-là, c'est comme important pour l'étudiant de bien se préparer, mais de bien performer. Ils ont un certain orgueil aussi. Donc, mais ils oublient les caméras. Il y a des caméras, mais ça, ils oublient ça vraiment parce qu'une fois qu'ils sont là, ils sont habillés comme infirmières, ils réagissent, le patient réagit, il y a de la douleur, ils doivent intervenir, il faut qu'ils appellent le médecin si ça va moins bien. Donc, ils sont vraiment en situation clinique. Après ça, quand ils se revoient, bien évidemment, oh, je ne suis pas contente de ma performance. Il y a beaucoup d'émotifs au début où je suis très contente de ma performance. Je trouve qu'on a bien travaillé en équipe. Ou, oh, mon Dieu, regarde, tu me regardais, on aurait dû mieux séparer les tâches ou des choses comme ça. Donc, c'est ça qu'ils voient. Mais après ça, déjà dans la même journée, après la première situation clinique, la deuxième situation clinique, on voit déjà un avancé. Donc, c'est sûr qu'avec 33 scénarios, avec des scénarios de la première session jusqu'à la sixième session, ça fait en sorte que les étudiants, ils ont une préparation vraiment pour être des infirmiers et infirmières très performants en sortant du milieu. C'est sûr que quand ils arrivent en stage, ils vivent autre chose parce que c'est autre chose, là. C'est le vrai patient. Il y a aussi cette anxiété-là. Mais s'ils ont eu à réagir à certaines situations, parce que c'est clair que nos trois scénarios, ce n'est pas des situations qui arrivent jamais. Donc, c'est des situations qu'on jugeait incontournables parce que ça arrive souvent, puis qu'il faut réagir, puis il y a du jugement clinique, puis il y a des petits détails, parce que tel patient, il y a tel antécédent ou tout ça. Donc, ils ont tout ça à travailler. Donc, à ce moment-là, puis on fait des petites nuances aussi dans des scénarios. Les étudiants ne vivent pas tout à fait toujours le même scénario. Donc, ils ont aussi à faire du jugement à ce niveau-là. Donc, c'est sûr, quand ils arrivent dans la pratique, ils sont beaucoup plus performants, comme je disais tantôt.
On le voit clairement, vous êtes une passionnée. Je pense que vous ne pourrez pas vous lasser là, de ce que vous faites dans la vie, là, clairement.
Non, ça, c'est clair, parce que c'est sûr que le centre de simulation, c'est l'avenir. C'est l'avenir dans plusieurs autres domaines, mais c'est de l'avenir dans la santé. Puis je pense que quand on dit campagne majeure, puis pourquoi les gens sont intéressés, oui, on est passionnés, mais évidemment, on voit le résultat aussi. Il n'y a rien de mieux que bien former les gens pour bien soigner par la suite. Donc, c'est le lien direct de la formation vers la santé. Puis, je pense qu'il n'y a pas non plus une famille qui ne vivra pas une expérience en lien avec la santé d'un proche ou d'eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est très important. Puis, c'est pour ça qu'Alexandre Alain, aussi notre porte-parole, lui qui a déjà vécu un problème de santé personnelle, oui. Puis qui en a fait part, là, c'est pas un bris de confidentialité que je fais ici, lui se sent très interpellé aussi à ce moment-là par la santé. Puis, je pense que c'est un bon porte-parole pour nous, autant sport, études que santé.
Est-ce que vos affiches sont prêtes pour le 8 février?
Évidemment, elles sont prêtes. Oui. Sont prêtes.
Madame Denoncourt, merci d'avoir pris le temps. Super intéressant. Bravo.
Ça me fait plaisir. Puis je vous invite à venir visiter le centre de destination si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ah, c'est bon, l'invitation est lancée. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.